Bonjour à tous et bienvenue au Labo des Savoirs, une émission spéciale Fête de la Science, une émission animée aujourd'hui par Thomas Prévost et Guillaume Mézières. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous sur le campus de la Fac de Sciences. Nous.
Et le Labo des Savoirs fête aussi la science et nous avons décidé d'aller sur le terrain en direct des lieux de la recherche nantaise. Hier nous étions au laboratoire Subatech à l'école des mines de Nantes et nous avons exploré l'énergie et la matière. Aujourd'hui nous sommes à l'Institut des matériaux Jean Roussel.
Et nous allons continuer à creuser la question énergétique dans un institut où sont menées des recherches qui font référence dans des domaines qui nous intéressent cette semaine, comme les cellules solaires, les piles à combustible et les batteries. Et c'est de piles et de batteries dont nous allons parler dans cette émission spéciale Fête de la Science. Nous allons interroger des chercheurs sur un des plus grands défis de notre temps, comment stocker l'énergie. Stocker l'énergie, rien de plus facile a priori. Un plein d'essence, un sac de charbon, une réserve de bois ou bien quelques milliards de mètres cubes d'eau derrière un barrage. Voilà de l'énergie stockée, prête à servir n'importe quand et dès que le besoin s'en fait sentir. Et aujourd'hui, les besoins sont grands.
Les besoins sont grands, les ressources rares. Alors problème, comment faire pour stocker l'énergie solaire, l'énergie du vent, l'énergie des vagues? Et que faire de toute l'énergie produite par une centrale nucléaire à 3h du matin lorsque les lumières sont éteintes et les machines à l'arrêt? Faut donc trouver des solutions pour stocker l'énergie immédiatement disponible, mais pas naturellement conditionnée.
Les systèmes de stockage électrochimique, c'est une autre manière d'appeler les piles ou les batteries, constituent alors un enjeu considérable pour la recherche et l'industrie. Des enjeux importants, comme celui du stockage de l'électricité ou celui du développement de la voiture électrique et d'autres, plus quotidiens, qui concernent les performances des batteries dans vos ordinateurs, vos téléphones, lecteurs, tablettes, tronçonneuses et appareils portables de toutes sortes.
Et derrière ces enjeux, des recherches et des chercheurs, comme ceux de l'IMN, dont nous recevons aujourd'hui le directeur, Guy Ouvrard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut depuis 2008 et vous allez pouvoir nous parler des différentes recherches qui sont menées dans ces domaines.
À vos côtés, Dominique Guillaumard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS, responsable de l'équipe de recherche stockage et transformation électrochimique de l'énergie. Et dans votre équipe, des chercheurs et des doctorants, nous nous incluons deux.
Tout à fait. Donc Magali Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc doctorante, vous effectuez vos recherches entre la France et le Québec, à Montréal, je crois.
Oui.
Et vous travaillez sur un matériau d'avenir pour les batteries, le silicium. On y reviendra tout à l'heure. Et Rémi Castin, vous êtes également doctorant à l'IMN. Votre thèse porte, elle, sur le vieillissement des batteries au lithium dans le domaine du transport urbain. Les batteries ont une durée de vie, c'est un problème à résoudre et on y reviendra également tout à l'heure. Nous aurons également le plaisir d'accueillir deux étudiants de l'association Polyjoule qui nous parleront de leur voiture de course en économie d'énergie.
Alors, une première question pour Rémi. On le disait à l'instant, il y a des batteries absolument partout. Combien de batteries portez-vous en ce moment sur vous?
C'est pas une question piège.
Une seule.
Une seule.
Celle de mon téléphone portable.
D'accord. Alors justement, quels sont les principaux usages pour toutes les batteries aujourd'hui? Transport, confort, etc.
C'est surtout un usage portable pour les batteries au lithium, étant donné qu'on les applique pour des applications justement portables, étant donné que leur faible capacité, étant donné aussi qu'on ne peut pas les faire vieillir suffisamment. Mais dans l'avenir, on essaie de faire quelque chose qui soit plus stationnaire, avec un nombre de cyclages, de charges, décharges très, très important, et une possibilité des performances qui pourront permettre d'utiliser dans des conditions extrêmes.
On va y revenir tout à l'heure. Peut-être que nous pouvons faire un petit effort de définition avant de commencer cette émission. Dominique Guillaumard, quelle est la différence entre une pile, une batterie et un accumulateur?
Alors, une pile, c'est un système qui n'est pas rechargeable. On s'en sert qu'une fois. Quand la pile est vidée et ne fournit plus d'énergie, on doit la jeter. Dans l'avenir, il ne faudra pas les jeter. D'ailleurs, il faudra les recycler. Et une batterie ou un accumulateur, c'est une pile rechargeable. Donc, on peut la recharger un certain nombre de fois. Suivant la technologie, ça peut aller jusqu'à 3000 cycles de charge-décharge pour le lithium-ion, par exemple.
Batterie-accumulateur, c'est la même chose.
Batterie, c'est un anglicisme. Et accumulateur, c'est le vrai mot français.
Guy Ouvrard, on parle ici beaucoup d'applications industrielles. Quelle est la place de la recherche fondamentale dans ce domaine, ici, du stockage de l'énergie à l'IMN?
Pour faire simple, tout ce qui est industriel peut être fondamental. Notre problématique, d'une façon générale, ici, en travaillant sur les matériaux, c'est toujours de transformer une problématique industrielle dans un vrai projet de recherche scientifique fondamental. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux.
Et pourtant, l'IMN, l'Institut des matériaux Jean Roussel, est à l'interface de ces deux mondes, entre la science fondamentale et l'industrie. De quelle manière ?
Oui, on est à l'interface. On fait la recherche fondamentale parce que si nous, on ne la fait pas, elle ne se fait pas. Et on aide les industriels aussi, mais sans perdre notre mission qui est de découvrir et d'augmenter les savoirs.
Alors la batterie, justement, c'est un objet, on l'a dit tout à l'heure, très trivial, connu depuis plus de 2 siècles. Mariette Liboutet nous raconte l'histoire de la première pile, l'ancêtre de toutes nos batteries. On y rencontre des grenouilles et aussi quelques citrons.
On écoute tout de suite.
Souvenez-vous de votre bon vieux Walkman. Pour entendre vos musiques préférées, vous deviez changer régulièrement les piles pour lui fournir assez d'énergie. Des piles dont l'invention ne date pas d'hier. Remontons dans le temps. Les premières machines à produire de l'électricité, au XVIIe siècle, s'appelaient les machines électrostatiques. Ces machines fonctionnaient selon le même phénomène que vous connaissez bien, l'électricité statique. Si vous frottez un ballon de baudruche sur votre pull, le ballon va se charger et vos cheveux vont être attirés vers lui. N'hésitez pas à réaliser cette expérience électrisante. Un peu plus sophistiquée qu'un ballon de baudruche, une machine électrostatique était composée d'une roue qui, lorsqu'elle était activée, entraînait une boule de verre qui se frottait sur du cuir. Le cuir se chargeait en électricité statique. Un fil conducteur relié au cuir se chargeait à son tour et provoquait une étincelle. C'est au XVIIIe siècle que la première pile électrique a été inventée, suite aux travaux de 2 chercheurs italiens. Luigi Galvani, professeur d'anatomie à Bologne, a observé par hasard un phénomène. En fixant le muscle d'une cuisse de grenouille, morte, ne vous inquiétez pas, à des fils de cuivre qui se trouvaient en contact avec le fer d'une grille de balcon, le muscle s'est contracté vivement. Selon lui, il avait découvert l'électricité animale. En réalité, il n'est pas question d'électricité animale, mais d'une réaction électrochimique entre le métal et un milieu conducteur, ici le muscle de la grenouille. C'est Alessandro Volta qui a interprété ce phénomène observé par Galvani. Son constat, le phénomène n'est pas limité aux grenouilles. Si vous posez sur le dessus et le dessous de votre langue des tiges de fer et de cuivre, vous ressentirez un picotement et un goût acide dans votre bouche. L'électricité est créée par le cuivre et le fer lorsque ces 2 métaux sont dans un milieu conducteur humide, comme votre langue. La première pile, la pile Volta, va alors voir le jour. Il s'agit d'une colonne constituée d'un empilement alterné de disques de 2 métaux différents, du cuivre et du zinc. Ici, le fer rouillant facilement, il n'est pas utilisé. Entre ces plaquettes est intercalé un carton imbibé d'eau salée. Les 2 extrémités de cette colonne sont connectées à l'aide d'un fil métallique pour que le fluide électrique circule sans interruption de pôle en pôle. L'électricité est délivrée en continu. Et si vous voulez réaliser chez vous une pile, comme Volta, munissez-vous d'un citron juteux, d'un clou en cuivre et d'un en zinc, et d'un fil électrique avec des pinces crocodiles. Fixez la pince crocodile sur le clou en zinc et reliez le fil à la borne négative d'une petite montre LCD par exemple. Faites la même chose avec la borne positive pour le clou en cuivre. Le courant peut maintenant circuler car l'acide citrique du citron est un bon milieu conducteur. Si l'heure de votre montre ne s'affiche pas encore, n'hésitez pas à rajouter des citrons en série. Après l'effort, pas de réconfort, ne soyez pas tenté par un citron pressé, les citrons utilisés ont subi des réactions chimiques. Avec la pile Volta et la pile citron, nous sommes loin des petites piles glissées dans votre Walkman. Au cours du temps, elles ont en effet beaucoup évolué et sont devenues de plus en plus performantes pour nous délivrer leur énergie.
Le Labo des Savoirs, émission activatrice de synapses.
Merci Mariette Liboutet pour cette plongée dans les années 90 et pour cette information. Un citron peut donc servir de pile, à bon entendeur. Dominique Guillaumard, les piles ont donc beaucoup évolué. Celles que l'on trouve dans le commerce aujourd'hui, comment fonctionnent-elles ? Sur le même principe ?
Alors, de manière très simple, une pile ou un accumulateur fonctionne à partir de 2 conducteurs métalliques qui s'appellent les électrodes, qui conduisent les électrons, séparés par un électrolyte qui est un milieu qui conduit les ions. Et par exemple, la pile commerciale la plus répandue que vous trouvez dans n'importe quel supermarché, c'est une pile alcaline avec du zinc à une électrode, un oxyde de manganèse qui est un minerai très répandu à l'autre électrode et de la potasse concentrée dans l'eau comme électrolyte entre les 2 électrodes.
Et ces piles sont-elles très différentes des piles sur lesquelles vous faites vos recherches ici à l'IMN ?
Alors, je viens de parler de la pile alcaline qui existe depuis très longtemps. depuis plus de 100 ans, largement plus de 100 ans. À l'IMN, nous travaillons sur les accumulateurs lithium-ion qui sont rechargeables, contrairement à la pile que je viens de décrire. Et alors, pour comparer les performances des accumulateurs lithium-ion actuels, je vais comparer à un accumulateur qui est très répandu, qui est la batterie au plomb, l'accumulateur au plomb que vous trouvez dans toutes les voitures qui sert au démarrage. Un accumulateur lithium-ion possède 8 fois plus d'énergie embarquée par rapport à un accumulateur au plomb. Ça vous montre le progrès qui a été fait. Et on peut classer les accumulateurs lithium-ion en disant que ça correspond à une rupture technologique dans le domaine des accumulateurs.
Donc on est sur des performances vraiment améliorées. Malgré tout, nous sommes encore loin du jour où nous pourrons voir des embouteillages de voitures électriques. Qu'est-ce qui empêche encore le tout électrique dans le domaine des transports, par exemple ?
Alors effectivement, il y a encore des progrès à faire. Alors dans le domaine des transports, on a besoin d'accumulateurs qui donnent une grande autonomie au véhicule. Et donc pour cela, il faut qu'il y ait une grande quantité d'énergie stockée par unité de masse ou par unité de volume. Et il y a encore des progrès à faire. Actuellement, avec les technologies lithium-ion, qui sont les meilleures qu'on connaît actuellement, on peut avoir une autonomie de 250 km pour un véhicule électrique. Et donc c'est quand même limité à la ville et à la périphérie de la ville. Et il y a des projections qui sont faites, évidemment, pour avoir une autonomie qui correspond à peu près à ce que possède une voiture à essence actuellement. Ben, il faudrait aller jusqu'à entre 700 et 1000 km. Et donc, vous voyez, il faut multiplier par 3 l'énergie stockée dans les piles actuelles.
Guy Ouvrard, quelles sont les pistes de recherche aujourd'hui, si on fait un panorama sur ce domaine des accumulateurs, pour essayer de développer le fait que ces batteries soient plus performantes ?
Comme vient de le dire Dominique Guillaumard, les problèmes sont des problèmes de performance, des problèmes de coût. Si le salon de l'automobile vient de se terminer et il a été beaucoup question de véhicules électriques, mais on parle aussi beaucoup du coût du véhicule électrique. Tant que le pétrole sera au prix, je vais dire relativement bas où il est actuellement, par comparaison au coût de la batterie et de l'utilisation de la batterie, je pense qu'on aura du mal à imposer le véhicule électrique.
Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un coût de voiture électrique aujourd'hui ?
Alors, des exemples... C'est un peu difficile parce que tous les tarifs que l'on a, à ma connaissance, c'est des tarifs d'un véhicule sans la batterie qui est louée par le constructeur. Donc on se trouve sur... les constructeurs, justement, pour vendre le véhicule, ont déconnecté le coût de l'énergie, si j'ose dire. L'énergie, en tant que telle, l'électricité ne coûte pas très cher.
On achète la carrosserie avant le moteur.
Alors on a le moteur, mais on n'a pas le réservoir.
D'accord.
Et donc c'est une des problématiques, et ça permet de diminuer le coût. D'un autre côté, le problème est un peu faussé aussi, parce qu'il y a des subventions d'État qui sont significatives. Donc quel est le coût réel de l'énergie et du transport électrique est, on va dire, dans un facteur 2 par rapport à un véhicule thermique équivalent.
Vous avez parlé d'autonomie, de coût. Est-ce que la sécurité, ça peut être aussi un frein au développement de ces batteries ?
Alors la sécurité peut être un frein au développement de ces batteries, mais c'est... Ça peut déjà être un frein. Enfin, elles sont déjà largement diffusées, y compris on a parlé de téléphones portables, d'ordinateurs portables, etc. Donc le problème de sécurité, il existe toujours, y compris pour ces dispositifs. Ceci étant dit, on peut en mettre dans les avions, on en met dans les bateaux, on en met dans différents dispositifs, y compris dans les ordinateurs. Il y a quelques exemples où la sécurité a été défaillante, mais c'est un des problèmes, ça n'est pas le seul, et à mon sens, c'est pas le majeur.
Dominique Guillaumard, vous vouliez rajouter ?
Oui, un chiffre concret au niveau du coût. En gros, un véhicule de petite taille pour la ville coûte en gros 10 000 euros. Et quand ce véhicule est électrique, ça double le prix. Le prix de la batterie, en gros, c'est 10 000 euros aussi. Donc actuellement, on en est là. Et il y a des projections de coûts dans l'avenir qui sont telles qu'on espère diviser par 3 le coût des accumulateurs de cette taille qui vont dans les véhicules.
Et sur la sécurité, on en parlait à l'instant, les batteries peuvent chauffer, donc est-ce qu'il y a ces dangers-là qui existent ?
Alors la sécurité, c'est un critère qui est très très étudié depuis un certain nombre d'années, et c'est ce qui a retardé la mise sur le marché de la technologie lithium-ion, donc c'est vraiment du concentré d'énergie. Et en schématiquement, on peut dire... à un accumulateur élémentaire, un seul accumulateur lithium-ion, même avec sa forte densité d'énergie, est tout à fait sécuritaire. Par contre, quand on associe un grand nombre d'accumulateurs entre eux en série, en parallèle, dans un pack qui est utilisé dans un véhicule électrique, à ce moment-là, on peut avoir certains éléments qui deviennent avec des comportements différents des autres éléments, et il faut vraiment une informatique embarquée très précise pour contrôler le comportement de chaque accumulateur dans le pack.
Et en ce qui concerne la capacité, donc on a parlé autonomie, coût, éventuellement sécurité, la capacité ça peut être aussi un problème, enfin un axe de recherche. Est-ce qu'on est limité en termes de capacité dans une batterie? Est-ce que par exemple la taille et la miniaturisation de plus en plus poussée des batteries, c'est un frein à la capacité ou pas du tout?
Alors vous dites capacité, je parlais énergie tout à l'heure, énergie embarquée, bon c'est la même chose. Hein. Alors je vais résumer ça de la manière suivante. Pour un jeu de matériaux donnés entre l'électropositive et l'électrode négative, c'est-à-dire pour une technologie donnée, on va améliorer l'énergie embarquée en jouant sur la technologie. Donc ça, c'est le rôle de l'industriel qui va réussir à mettre plus de matière dans un volume donné d'un accumulateur. Et le rôle du chercheur, justement, est de changer la nature des matériaux pour avoir des matériaux d'électrode qui vont stocker intrinsèquement plus d'énergie. Et c'est ce qu'on appelle une rupture technologique. Quand on va changer les matériaux, on va faire une rupture technologique. Ensuite, l'industriel devra améliorer la technologie pour optimiser le nouveau système, etc. C'est comme ça que ça fonctionne.
On va reparler de ces matériaux, et notamment d'un, le silicium, avec vous, Magali Gauthier, puisque c'est le thème de vos recherches. On en reparlera tout de suite après un morceau, et on va écouter un morceau du groupe Breton qui s'appelle Oxyde. A tout de suite dans le Labo des Savoirs. Nous sommes de retour ici à l'IMN pour une émission Stocker l'énergie. Nous parlions des nouvelles batteries et des recherches qui sont menées ici à l'IMN. Nous abordions le thème de la capacité. C'est vrai qu'avoir les batteries à plat, c'est une situation plutôt courante. Donc il y a un défi de la recherche qui est celui d'augmenter la capacité des batteries. Magali Gauthier, c'est l'objectif de votre thèse, justement, d'améliorer cette capacité grâce à des matériaux plus efficaces. Et vous êtes intéressé par un élément chimique en particulier, il s'agit du silicium. C'est un élément qu'on utilise aujourd'hui massivement en électronique, en photovoltaïque, et donc bientôt aussi dans les batteries. Magali Gauthier, pourquoi le silicium est si intéressant?
Donc le silicium est intéressant en fait pour remplacer un matériau qui existe, qui est couramment utilisé dans les batteries commerciales qu'on a dans nos téléphones, c'est le graphite qui se situe d'un côté à l'électrode négative. Et en fait, le silicium a l'avantage d'avoir une capacité théorique à stocker le lithium 10 fois supérieure à celle du graphite qu'on utilise actuellement. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir utiliser ce matériau pour pouvoir largement augmenter l'énergie et la puissance délivrée par nos batteries.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez simplement quel est le procédé chimique ou physique qui fonctionne à l'électrode où il y a le silicium pour augmenter la capacité de la batterie?
Donc en fait, le silicium, il va juste venir s'allier avec du lithium et il va venir en fait accueillir beaucoup de lithium dans sa structure et il va être capable de le redélivrer. mais il reste encore, il y a encore pas mal de soucis sur ce matériau puisqu'il n'est pas encore utilisé. Donc il y a pas mal de soucis de fonctionnement qu'on est obligé d'améliorer, essayer de trouver des solutions pour qu'il fonctionne correctement et qu'il puisse remplacer le graphite.
Ces soucis, c'est quel genre d'obstacle que vous, chercheuse, essayez de surmonter aujourd'hui?
Ce matériau, pour l'instant, on n'arrive pas encore à le faire fonctionner sur des nombres de charges-décharges suffisants. Donc en fait, il a des problèmes, sa structure va gonfler quand on va venir... insérer du lithium, après le matériau va se décomposer un peu. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver une nouvelle façon de synthétiser ces matériaux ou d'essayer de comprendre les phénomènes qui engendrent ces problèmes pour essayer ensuite de trouver des solutions pour les régler.
Non. En termes de chiffres, remplacer le graphite par le silicium, ça augmente de combien la capacité de la batterie en termes de pourcentage ou de coefficient multiplicateur?
Ça dépend par deux à peu près, mais après tout dépend déjà de comment on va faire fonctionner la batterie, mais théoriquement on augmenterait par deux la capacité.
Dominique Guillaumin?
Oui, je confirme, c'est ça.
D'accord. Donc on a expliqué pourquoi les batteries au silicium ne peuvent pas encore être utilisées au maximum de leur capacité. C'est, pour résumer, parce que le matériau ne supporte pas les trop fortes charges.
Oui, en fait il a du mal à stocker et à relibérer le lithium de façon réversible, en fait, de la même manière au cours du fonctionnement.
Ce qui est intéressant avec le silicium, c'est aussi qu'on le trouve partout. C'est-à-dire partout, c'est-à-dire...
Classiquement, du silicium, on en trouve... Le sable, c'est contient du silicium. Et après, je crois que c'est le deuxième ou troisième élément le plus abondant sur Terre. Donc après, il y a des coûts de transformation parce qu'on ne le trouve pas à l'état pur comme ça. Mais on a beaucoup...
Tout à l'heure, vous avez employé le verbe synthétiser. Mm-hmm. C'est-à-dire que le silicium qu'on trouve à l'état naturel, on opère des choses dessus. Quel type de transformation est-ce qu'on effectue sur lui?
C'est pas mal... nous, on le transforme pas. En fait, on l'achète déjà pur, qui est synthétisé par d'autres... on l'achète par des gens qui l'ont produit industriellement. Mais nous, après, on va le remodifier pour essayer d'améliorer la façon dont il fonctionne.
On parle du silicium, on a expliqué pourquoi il était intéressant. Un des arguments en faveur du silicium, c'est qu'on trouve partout. C'est pas le cas du lithium. Dominique Guillaumin, on n'a pas encore parlé de ce lithium. En quoi le lithium, lui, est intéressant pour ces nouvelles batteries?
Alors, donc pourquoi les batteries lithium-ion sont beaucoup plus performantes en énergie embarquée par rapport aux batteries au plomb, dont j'ai parlé tout à l'heure? Eh bien, parce que le lithium, c'est un élément alcalin. Et les éléments alcalins, ce sont les éléments qui contiennent intrinsèquement le plus d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces éléments ont une grande aptitude à céder facilement leurs électrons. Donc, il va en résulter que le potentiel de l'électrode de lithium va être très réducteur. Et la tension de sortie d'une batterie lithium-ion, schématiquement, va être trois fois plus importante que la tension de sortie d'un accumulateur au plomb.
Alors la tension de sortie, on peut peut-être expliquer...
La tension de sortie, c'est la différence de potentiel entre les deux pôles de l'accumulateur.
D'accord.
Donc en gros, pour une batterie au plomb, c'est 2 volts, et pour un accumulateur lithium-ion, c'est 3,7 volts.
Alors le lithium, c'est pas un élément si abondant aujourd'hui, on le trouve dans les salars, on le trouve où d'ailleurs, Guy Ouvrard, le lithium? Est-ce que c'est un problème, ça, pour ces batteries au lithium, le fait de pouvoir les construire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de pénurie, là, ici?
Alors, le lithium se trouve à l'état de sel. Hein, c'est son cousin germain, c'est le sodium, que vous connaissez bien pour l'utiliser quotidiennement dans la cuisine, dans le chlorure de sodium, qui est donc le sel de cuisine. Et donc, on le trouve dans des mines de sel, à l'état de carbonate principalement. Les ressources mondiales sont importantes On ne laisse pas penser qu'on arrivera à une pénurie de lithium assez rapidement. Un problème pourrait plus un problème de géopolitique, parce qu'il se trouve principalement en Amérique du Sud, donc dans certains pays qui pourraient utiliser ces ressources de lithium comme levier et influence éventuellement néfaste. Pour le moment, on n'en est pas là. Donc c'est plus un problème de localisation qu'un problème de ressources mondiales.
Juste une dernière question à propos du lithium. Le lithium, c'est donc le conducteur qui permet de faire passer les ions d'une électrode à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres composés qui sont utilisés dans la recherche pour remplacer éventuellement le lithium?
Alors, on parle du lithium. On a parlé du métal, lithium. Dans les batteries lithium-ion, il n'y a pas de lithium métal. En fait, il y a deux technologies de batteries au lithium. Il y a le lithium métal polymère dans ces batteries. À l'électrode négative, il y a du lithium métal. L'électrolyte, c'est un polymère. Mmh. Et l'autre technologie dont j'ai déjà parlé, c'est lithium-ion. Il n'y a pas de lithium métal. Et à l'électrode négative, c'est un graphite qui va être bientôt remplacé par les siliciums de Magali.
On l'espère en tout cas.
Alors, sécurité, capacité, autonomie et aussi la longévité. Après les batteries à plat, les batteries mortes, les accumulateurs ont une durée de vie plus ou moins longue et supportent plus ou moins bien les nombreux cycles de charge et de décharge. Alors Rémi Castin, c'est le thème de votre thèse de doctorat. Elle a pour objectif de mieux comprendre les mécanismes de vieillissement des batteries lithium, en particulier lorsque celles-ci sont utilisées pour faire rouler des voitures électriques.
Oui, alors le challenge principal de cette étude, c'est que dans un véhicule électrique, la batterie est sollicitée de manière très complexe. Donc on a des pulses de charge, de décharge qui représentent le freinage et puis les accélérations. En fonction du parcours qui peut être dans l'embouteillage, dans la ville, les sollicitations sont vraiment très différentes. Le problème, c'est dans un laboratoire, lorsqu'on étudie une batterie et son vieillissement, on regarde ça en fonction du temps, on utilise des profils avec un courant constant. Donc ça ne représente absolument pas ce qui se passe dans un véhicule électrique ou même un véhicule hybride. Donc le premier challenge de cette thèse, c'est justement de tester la batterie dans des conditions réelles de véhicule électrique et ensuite de regarder ce qui se passe exactement au niveau des électrodes. Donc ça, c'est quelque chose d'original, c'est de regarder vraiment les aspects matériaux, les aspects chimiques dans les deux électrodes pour voir ce que l'électrode a subi d'un point de vue chimique, d'un point de vue cristallin, d'un point de vue matériaux en fait.
Est-ce que vous pouvez nous décrire vos tests et vos résultats aujourd'hui sur vous en êtes où dans cette recherche? Comment vous travaillez sur ces questions-là?
Alors, mon programme de travail, c'est effectuer des batteries, les faire vieillir dans un temps suffisamment long pour représenter, pour avoir quelque chose de représentatif. Et j'utilise des matériaux qui sont pré-industriels, voire certains déjà industrialisés, des matériaux qui sont pensés comme étant intéressant pour une application en véhicule hybride ou dans certains cas électrique. Donc c'est des matériaux qui peuvent supporter des grandes puissances et des durées de vie très longues. Donc c'est ce qui est intéressant dans un véhicule électrique. Et donc ce que je fais, c'est que je prépare des batteries, je les fais vieillir tout simplement, je leur envoie du courant pour représenter un cycle de vie dans un véhicule, et ensuite je peux les ouvrir et analyser ça avec des techniques de pointe qu'on a ici à l'IMN pour comprendre chimiquement ce qui se passe à une échelle très petite, pour comprendre ce qui s'est passé dans les matériaux d'électrode.
Une batterie qui vieillit concrètement, si on veut se représenter la chose, ça ressemble à quoi? C'est des matériaux qui s'abîment qui...
Voilà, c'est ça, exactement. Alors, les électrodes que j'utilise sont composées de grains micrométriques, voire nanométriques pour certains cas. Et ces grains, en fait... on peut avoir sur leur surface une interface qui va croître au contact de l'électrolyte qui est liquide. Et dans certains cas, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des sollicitations qui peuvent être fortes, cette interface va bloquer le lithium et les électrons. Et du coup, ce grain ne va plus être utilisé dans l'électrode. Donc on va avoir une perte d'énergie. L'énergie n'est plus utilisée dans ce grain-là. Il peut y avoir d'autres choses, il peut y avoir des craquelures, il peut y avoir dans certains endroits le cristaux qui change de structure et du coup il n'est plus apte à capter du lithium ou à le relarguer. Donc c'est tout un tas de processus qui sont assez complexes et pas forcément très bien connus qui sont intéressants ici dans cette thèse.
Et quelles sont les causes de ce vieillissement dont vous décrivez bien les manifestations?
Alors les causes, dans le cas qui m'intéresse, c'est la percolation d'électrons et l'arrivée du lithium qui est qui arrive très rapidement à cause des pulses de puissance. Et premièrement, et deuxièmement, c'est le fait de répéter des charges et des décharges sur un nombre de cycles au moins des centaines de cycles. Donc à force de faire passer des lithium et des électrons dans le matériau, ça use la structure.
Dominique Guillaumin, je crois que nous sommes beaucoup à croire qu'une batterie s'abîme lorsqu'on la recharge régulièrement sans l'avoir complètement déchargée. Je crois qu'on a tous entendu ça. Est-ce que c'est vrai avec ces batteries-là?
Ah oui, donc vous parlez de l'effet mémoire. Alors l'effet mémoire, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. C'est un phénomène qui existe dans le cas de la technologie de nickel-cadmium, qui n'est plus du tout développée, à part quelques applications industrielles ponctuelles, parce que le cadmium est toxique et a été proscrit de toute commercialisation par la communauté européenne. Mais les nouvelles technologies ne sont pas du tout sujettes à l'effet mémoire, et contrairement à ce qu'on savait pour le nickel-cadmium, il vaut mieux pour le lithium-ion ne pas recharger complètement la batterie pour augmenter sa longévité en cyclage ou en circuit ouvert.
En attendant ces nouvelles batteries, on va parler un peu plus du principe de stocker l'énergie et de son importance, puisque la quasi-totalité des voitures aujourd'hui utilise une forme de stockage énergétique transportable sur un très bon rendement, c'est le pétrole. Bon, hélas, il a ses inconvénients, il est indirectement responsable, entre autres, combustibles fossiles du réchauffement climatique, puis il a ses limites, il est rare, le sera de plus en plus, donc il deviendra très cher. Est-ce qu'on peut...
Oui, du coup, est-ce que développer l'utilisation des accumulateurs, c'est dans le but de se passer du pétrole, hein, ça paraît pas aussi simple, Guy Ouvrard. Avec quel type d'énergie est-ce qu'on pourrait efficacement charger ces batteries ? Puisqu'on parle de stocker, mais il faut aussi les charger, ces batteries.
Oui, alors le pétrole n'est pas du stockage, si j'ose dire. On a attendu que les siècles et les millénaires nous stockent l'énergie qu'on est en train de consommer. Ici, il s'agit bien de stocker, donc comme de n'importe quel réservoir. On pourrait faire des comparatifs avec le réservoir d'eau de pluie pour faire de l'arrosage. Hein, c'est un peu le même système. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait stocker comme énergie ? Eh bien, c'est justement l'idée d'aller au-delà de... Enfin, pour parler de stockage au-delà du véhicule électrique, c'est qu'on va produire des énergies, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, qui sont des énergies intermittentes, type éolien, type solaire, etc., voire le nucléaire qui produit, vous avez dit, qui produit de l'énergie à 3h du matin quand on n'éclaire plus rien, mais on ne fait pas que de l'éclairage. Et donc l'idée est bien de stocker de l'énergie. À ce moment-là, on n'est plus dans du stockage du transportable, y compris pour le transport, mais du stockage stationnaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de l'énergie qui va être fournie par une éolienne, qui va être fournie par du solaire dans la journée, alors qu'on a plutôt besoin d'énergie quand on est rentré chez soi le soir. Donc il va falloir stocker cette énergie, et on est dans des dimensionnements qui sont plus du tout comparables à ce qu'on veut faire dans un véhicule électrique. Ça devrait être connecté à un réseau de distribution électrique, et les projets d'utilisation qui sont actuellement en cours d'élaboration impliquent d'ailleurs le véhicule électrique. Et on peut tout à fait imaginer que le véhicule électrique soit lui-même un dispositif de stockage au-delà de son utilisation pour le transport. C'est-à-dire qu'on aura des dispositifs. Bah, c'est-à-dire qu'on aura dans un véhicule électrique une batterie qui peut servir et qui pourrait réalimenter, si l'énergie n'a pas été complètement utilisée dans la journée pour le transport, de le réutiliser ponctuellement pour aller faire de l'éclairage de la maison. Je veux dire, tous les usages sont possibles. Aujourd'hui, si on a stocké pour faire 200 km et qu'on n'en a fait que 10 dans la journée, ça veut dire qu'il reste de l'énergie dans la batterie du véhicule qui peut parfaitement être utilisée pour éclairer la maison, par exemple, le soir, quitte à recharger la batterie dans un moment où on aura une source d'énergie qui sera disponible.
Aujourd'hui, on stocke beaucoup l'énergie nucléaire en France avec les barrages. On fait remonter l'eau dans des barrages d'amont. C'est donc une forme d'énergie potentielle, puisque c'est de l'eau qui attend d'être déversée derrière une turbine. C'est un moyen de stocker l'énergie. Est-ce qu'on pense à d'autres moyens de stocker massivement de l'énergie aujourd'hui ?
Alors, les stockages d'énergie sont soit électrochimiques. À ce moment-là, on est dans des dispositifs qui sont de plus grande taille et qui font pas forcément appel à des dispositifs type lithium-ion de très grande taille, avec des problèmes de sécurité notamment qui peuvent se poser. On travaille actuellement sur des systèmes qui sont des systèmes de redox flow, donc redox flow, où on a des échanges électroniques, des échanges d'électrons, mais qui sont plutôt entre des systèmes à circulation sur des liquides. Il y a des dispositifs qui sont relativement anciens en termes de recherche et qui remontent à une cinquantaine d'années, qui sont des dispositifs sodium-soufre, qui ne sont pas transposables dans des véhicules électriques parce que ça fonctionne à relativement haute température avec du sodium fondu, mais pour des dispositifs stationnaires, c'est tout à fait possible de l'envisager. Et c'est actuellement utilisé. Il y a d'autres dispositifs de stockage électrique, de stockage avec des volants magnétiques, etc., qui sont de stockage mécanique. D'autres dispositifs sur l'électrochimie, par exemple, enfin, qui sont plus électrochimiques, c'est d'utiliser un autre vecteur d'énergie, qui est l'hydrogène, via les piles à combustible, qui consiste à produire de l'hydrogène avec une source d'énergie électrique, qui va être une éolienne, par exemple, de stocker de l'hydrogène et de la réutiliser dans des piles à combustible.
Dominique Guillaumin.
Alors, il y a également une autre technologie qui est en cours de développement, c'est le stockage à air comprimé. Et donc, ça concerne des centrales entre le mégawatt et le gigawatt pour venir en appui des centrales hydroélectriques. Et donc, l'idée, c'est de comprimer de l'air et de le stocker dans des cavités souterraines et de récupérer donc l'énergie dans l'air comprimé, etc., pour récupérer l'énergie.
Est-ce que, Dominique Guillaumard, les économies d'énergie sont une motivation aussi pour vos recherches ?
Oui, absolument.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner des applications, des exemples qui font appel aux économies d'énergie ?
Préciser un peu.
Ça, vous êtes aussi sur le stockage ? Est-ce que vous êtes aussi sur des technologies qui utilisent l'énergie de façon beaucoup plus économe ? Est-ce qu'il y a ces axes de développement ici ?
Alors, bien sûr, c'est pour qu'une technologie arrive sur le marché et qu'elle soit commercialisée, il ne faut pas qu'elle coûte trop cher. Donc, une partie de notre recherche, celle qu'on fait en termes de recherche appliquée en collaboration industrielle, consiste à utiliser des matériaux qui sont répandus dans la nature, donc qui ne coûtent pas cher intrinsèquement, et qu'on peut fabriquer et purifier par des méthodes qui ne coûtent pas cher non plus. Donc effectivement, notre recherche en collaboration industrielle est axée sur ce point de vue-là. Il faut que ce qu'on met au point soit commercialisable à coût pas élevé.
Rémi Castin, votre thèse qui est financée par la région vous amène à travailler beaucoup sur les voitures électriques. Est-ce que vous travaillez aussi avec des industriels pour développer des prototypes, au-delà des recherches que vous effectuez sur les batteries, est-ce que vous travaillez sur des prototypes de voitures électriques avec des industriels ?
Non, c'est pas le cas, parce que ma thèse, c'est dans un processus pré-industriel, en fait. Mais je travaille avec le CEA, donc Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, avec lequel on échange le savoir-faire, et puis certains matériaux aussi d'électrodes qu'ils ont déjà développés et dont ils savent qu'ils sont applicables directement industriellement. Donc il y a ce savoir-faire qui s'échange entre ma thèse et puis le CEA.
On a mentionné il y a à peine une minute l'hydrogène et les piles à combustible. On va faire une pause musicale avant de retrouver Valentin Evon et Corentin Bocquet, deux étudiants de Polytech à Nantes qui sont présidents et vice-présidents de l'association Polyjoule. Polyjoule, c'est une association, c'est aussi un prototype de voiture de compétition dans la course aux économies d'énergie dont on est en train de parler. Magali Gauthier, Rémi Castin, merci beaucoup d'être venus dans cette émission du Labo des Savoirs, nous parler de vos recherches.
Merci à vous.
Guy Ouvrard, Dominique Guillaumard, vous restez avec nous et nous sommes de retour après un morceau du groupe Autoband City Slide.
Labo des Savoirs enrichit vos ressources scientifiques en direct des laboratoires de recherche.
Et nous sommes de retour à l'Institut Jean Rouxel, l'Institut des matériaux à Nantes. On parle de stockage d'énergie ici aujourd'hui. Et pour enchaîner, on va s'intéresser aux économies d'énergie. On a avec nous ici sur le plateau Valentin et Yvon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant en master thermique énergétique à Polytech et vous êtes président de l'association Polyjoule depuis septembre 2012. On a aussi avec nous Corentin Bocal. Bonjour.
Bonjour.
Et vous, vous êtes vice-président de l'association, aussi étudiant à Polytech et en master génie électrique.
Alors, on l'a rappelé il y a deux minutes, l'association Polyjoule, c'est une association étudiante de l'école polytechnique de l'université de Nantes et du lycée de la Jolivrie à Saint-Sébastien-sur-Loire. L'association existe depuis 7 ans et développe un prototype de voiture électrique monoplace alimentée par de l'hydrogène par le biais d'une pile à combustible. Vous allez pouvoir nous expliquer ça. Et je ne peux pas oublier de vous féliciter pour terminer cette présentation, féliciter pour vos victoires de cette année 2012, la première au Challenge Educeco et la seconde au Shell Eco Marathon où le véhicule Polyjoule a encore fini à la première place, encore parce que je crois que ce n'est pas la première fois et c'était dans la catégorie pile à combustible, c'est ça ?
Exactement.
Pouvez-vous peut-être nous parler de ces deux compétitions, le Challenge Educeco et le Shell Eco Marathon ?
Alors oui, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, c'est des courses à l'économie d'énergie. Donc ça consiste en... l'objectif, c'est d'économiser de l'énergie, de dépenser le moins d'énergie possible sur un circuit automobile. Donc lors de ces courses, il y a beaucoup de catégories représentées. Il y a du solaire, il y a de l'électrique, il y a de l'hydrogène, il y a pas mal d'énergie dite nouvelle. Et donc l'Educeco, c'est une course qui s'est passée cette année dans le Gers, donc en France, qui est une course exclusivement française. Et le Shell Eco, c'est une course internationale qui se passe en trois fois sur les trois grands continents.
Corentin, votre prototype, c'est quoi sa consommation d'énergie et puis c'est quoi sa vitesse aussi maximale?
Donc aujourd'hui, notre performance, elle est de 10 000 km en tout électrique. Et elle est de 10 000 km avec un seul litre d'essence. Et en pile à combustible, on est à 4 810 km qu'on a fait l'année dernière au Shell Eco.
Mais vous ne faites pas 10 000 km sur un circuit ou en faites combien ça...
Non, en fait, la course déroule sur 10 tours, donc en un temps imparti. Et donc après, on regarde la consommation qu'on a fait sur la voiture et par le calcul c'est remis en kilométrage par litre d'essence.
Et c'est une vraie course avec d'autres véhicules qu'il faut doubler ou c'est chacun son tour?
Non, c'est il y a plusieurs véhicules sur la piste. Il y a pas mal de règles d'ailleurs pour côtoyer tout le monde sur la piste, sachant que c'est pas une course. On part pas tous en même temps, on part tous à intervalle de 30 secondes, une minute. Et la voiture roule à peu près à 30 km/h. C'est la moyenne, donc aller faire 10 000 km à 30 km/h, ça fait un peu long.
Juste une dernière question sur ces compétitions. Ce sont des compétitions qui réunissent des assos étudiantes comme vous ?
Oui, exactement. D'accord. Seulement des étudiants. Par exemple, au Shell Eco Marathon, il y avait à peu près 3 000 étudiants sur le site.
Est-ce que vous pouvez maintenant nous décrire le prototype Polyjoule ? À quoi ressemble la voiture ?
Alors, la voiture, pour que les auditeurs puissent la représenter, ça ressemble un petit peu à un tétard, avec deux roues au niveau de la tête, une roue au niveau de la queue, qui fait à peu près 3 mètres de long. Les yeux du pilote sont à une trentaine de centimètres du niveau du sol.
Il est allongé,
il est tout à fait complètement allongé, une position vraiment inconfortable pour faire les tours lors des courses. Et voilà, à peu près.
Et juste tout à l'heure, vous parliez de la vitesse de 30 km/h. Cette vitesse, elle a été calculée pour économiser le maximum d'énergie ?
Tout à fait, puisque comme disait Corentin tout à l'heure, on a un temps imparti. Donc ça veut dire qu'il faut aller le plus lentement possible pour consommer le moins d'énergie possible. Sachant que si on va trop rapidement, on va dépasser le temps imparti. Si on va trop lentement,
Je vous ai félicité pour vos victoires. J'aurais pu aussi vous féliciter pour un record du monde. Vous en avez battu un cette année. Vous pouvez nous en dire plus, Quentin Bockel?
Oui, c'était le Educeco. Donc on a fait 10 000 km avec un seul litre d'essence.
Et ça, c'était le record du monde donc, dans une catégorie
Dans toutes les catégories.
D'accord.
Et donc en fait, c'est comme si on avait traversé la France pour 10 centimes d'euros.
D'accord. Donc 10 000 km avec un litre d'essence, en termes de comparaison pour une voiture normale. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire une voiture normale, mais une voiture habituelle, avec un litre d'essence, on fait combien de kilomètres ?
Avec les voitures les plus performantes aujourd'hui, c'est...
Je ne sais pas exactement. La consommation d'une voiture, c'est à peu près 5 litres au 100, on va dire.
D'accord.
Nous, c'est 0,01 litres pour 100 km.
Alors il y a plusieurs choses qui expliquent ce succès, vous allez pouvoir nous en parler. Donc, il y a le prototype qui est étudié, aérodynamique, mais il y a surtout le moteur. Alors, avec quel moteur fonctionne le véhicule Polyjoule ?
Alors l'aspect moteur, il fonctionne avec de l'hydrogène. Donc dans la voiture, nous avons une bonbonne d'hydrogène. L'hydrogène va réagir avec l'oxygène contenu dans l'air. Une réaction chimique qui va produire des ions, qui va produire donc de l'électricité, qui va être acheminée à un moteur électrique qui va faire tourner la roue. Et ce process n'est pas du tout polluant puisque ça crée de l'eau, tout simplement.
Il y a plusieurs catégories. Donc il y a les catégories dans ces compétitions hydrogène. Vous participez à d'autres catégories? Vous ne faites pas seulement des piles à combustible?
Alors nous, on fait seulement de la pile à combustible. On a participé une fois en tout électrique, comme l'a dit Corentin tout à l'heure. Par contre, vous l'avez dit tout à l'heure, on travaille beaucoup avec le lycée de la Jolivrie, qui eux sont en moteur à combustion et qui nous aident beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le projet.
Donc traverser la France avec 10 centimes d'euros, c'est intéressant, mais il faut la traverser donc allongée à 30 centimètres du sol et on ne peut pas emporter grand-chose. Vous travaillez à développer des véhicules un peu plus pratiques.
Oui, tout à fait. Cette année, on a un objectif de construire un nouveau véhicule qui, celui-là, ressemblera à vraiment une vraie voiture. Donc on participera à une autre catégorie qui est l'Urban Concept au Chalicot Marathon l'année prochaine.
Et ces projets, ils sont intégrés dans le cursus de Polytech?
Plus ou moins, c'est plus du travail externe pour nous, sachant que c'est quand même le travail est vraiment reconnu par le corps enseignant qui nous aide dans le projet et qui nous aide aussi dans le cadre de nos études.
D'accord, vous avez des conseils d'enseignants, de chercheurs de Polytech.
Sachant qu'il y a quelques chercheurs qui ont leur recherche basée sur notre pile à combustible aussi, travailler avec eux.
Dominique Guillaumard a mentionné tout à l'heure les piles à combustible à l'hydrogène. Vous, personnellement, avez choisi ce type de carburant. Pourquoi vous pensez que c'est une énergie d'avenir? Et dans ce cas-là, pourquoi l'hydrogène?
Alors, on le pense, mais pas seulement nous. Il y a juste à aller voir, par exemple, les comptes rendus du mondial de l'automobile qui se passe actuellement. On peut voir que beaucoup de constructeurs automobiles ont misé cette année sur l'hydrogène. Je pense à Nissan, Toyota, vous pouvez aller voir sur Internet les comptes rendus du mondial. Il y a plein de trucs sur l'hydrogène. Sachant que c'est une énergie qui ne pollue pas du tout.
Et est-ce que vous envisagez de poursuivre ça dans votre métier, dans votre profession, dans l'avenir, tous les deux?
Personnellement, moi j'aimerais bien.
Moi pareil, au niveau de la consommation d'énergie, réduire les consommations.
Guy Ouvrard, Dominique Guillaumard, je vous rappelle que vous êtes tous les deux chercheurs ici à l'Institut des matériaux, où des recherches sont menées dans le domaine du stockage de l'énergie. Que pensez-vous tous les deux du véhicule polyjoule, Dominique Guillaumard d'abord?
Ben, je suis particulièrement impressionné par les performances qui ont été indiquées. C'est vraiment intéressant de pousser à ses limites les minimums de consommation qu'on peut obtenir. Donc, je trouve que c'est un très beau projet.
Et vous, Guy Ouvrard?
Oui, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça aborde un autre problème de l'énergie. Enfin, on a parlé du stockage, on peut parler de la production, on peut parler de la distribution, et là on est sur les aspects d'économie que vous avez évoqués tout à l'heure. Donc on est sur une utilisation la plus raisonnée et la plus optimale de l'énergie qu'on produit, et ça fait partie des paramètres de la problématique globale de l'énergie telle qu'on l'envisage actuellement au niveau mondial et sociétal.
Et partagez-vous cet enthousiasme sur les piles combustibles hydrogène? Est-ce que vous pensez que c'est un peu la solution et c'est là que les recherches devraient aller pour...
Alors il y a des recherches, et nous menons à l'IMN aussi des recherches sur les piles à combustible. Je pense que on parle beaucoup de mix énergétique, et je pense qu'il n'y a pas une solution dans l'avenir de l'énergie. Je pense qu'on aura plusieurs sources, qu'on aura plusieurs moyens de stockage, qu'on aura plusieurs moyens, y compris pour le transport, et que l'utilisation des piles à combustible, parce qu'on a en plus différents dispositifs sur les piles à combustible, avec différents matériaux, des modes des températures de fonctionnement qui sont différentes, et en fonction des usages, on aura différents modes de stockage et probablement différents types de piles à combustible.
Les alternatives, ce serait pour les piles à combustible, donc il y a les piles à combustible à hydrogène, donc on remet l'hydrogène dans cette pile pour la faire fonctionner. Il y a d'autres éléments qui peuvent servir de carburant?
D'autres éléments. Alors, un des inconvénients des piles à combustible actuelles, c'est qu'elles utilisent un hydrogène très pur, parce que tout élément supplémentaire arriverait à polluer assez rapidement les électrodes, donc à réduire la durée de vie des piles à combustible.
et qu'on envisage, et on a aussi des activités qui sont l'utilisation de la biomasse. Alors qu'on travaille sur des dispositifs qui sont différents, on a intérêt dans ces cas-là à travailler à des températures qui sont plus élevées, mais il faut avoir des dispositifs solides avec d'autres inconvénients. Mais l'utilisation de gaz issu de la biomasse, par exemple, est un des aspects que nous développons, en particulier avec l'ADEME, sur un projet qu'on vient de lancer récemment.
Dominique Guillaumard, sur l'hydrogène.
Alors, ici à l'IMN, la spécialité des gens de notre équipe qui travaillent là-dessus, alors cette thématique est dirigée par Olivier Joubert, la spécialité c'est les piles à combustible à haute température. Alors l'intérêt des hautes températures, c'est qu'on peut utiliser de l'hydrogène, mais on peut aussi utiliser des gaz de synthèse, du gaz naturel, et donc ça permet, on peut dire en résumé, que cette pile à combustible à haute température permet de faire à la fois du réformage et de la transformation d'énergie en électricité.
D'accord. Valentin Evon, Corentin Bocquel, votre pile à combustible, vous la fabriquez vous-même à Polytech ?
Alors, on l'assemble nous-mêmes.
Vous l'assemblez vous-même.
Sachant que beaucoup de nos concurrents achètent leur pile et mettent la pile dans leur voiture, nous, on assemble notre pile, ce qui nous permet de l'optimiser, parce qu'une pile à combustible fonctionne avec un système de cellules qui permet que la réaction chimique soit optimale. Et nous pouvons optimiser en modifiant le nombre de cellules, par exemple. Et aujourd'hui, nous sommes sur un projet qui permettra de caractériser l'air ambiant de la pile. Donc, comme on disait, l'oxygène vient de l'air ambiant. Et on pourra caractériser, par exemple, l'hygrométrie, la température de l'air, pour avoir un fonctionnement optimal de notre pile.
Corentin, est-ce que vos concurrents, ils sont sur les mêmes technologies que vous ?
En pile à hydrogène, je ne sais pas exactement. Autrement, pour les cartes électroniques que nous faisons nous-mêmes aussi, ils utilisent des cartes souvent achetées dans le commerce, car ils ne savent pas les développer en fait.
Est-ce qu'il y a des échanges, des partenariats entre guillemets, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de très concurrentiel, comme dans le monde industriel ?
Pour notre association, c'est assez concurrentiel. Donc, vu nos records, c'est assez fermé.
Guy Ouvrard, ce que je peux vous demander, d'apporter un mot de la fin sur ce thème de stocker l'énergie. On a parlé de beaucoup de choses ici, d'économie, de capacité, de sécurité des batteries. On est en train d'entrevoir un avenir où ces batteries vont devenir de plus en plus présentes. Elles le sont déjà énormément. Si vous deviez passer un message sur ce stockage de l'énergie, quel serait-il ?
Je ne sais pas si le message est facile à passer, parce que c'est un problème qui est universel. Je pense que le message est de dire que ça concerne trois communautés, que ça va concerner des activités. Alors on va commencer par nous, je suis désolé, mais des activités de recherche fondamentale pour aller vraiment améliorer des performances dont on a déjà parlé, qui sont des performances de puissance, qui sont des performances de stockage, qui sont des performances de sécurité, des performances de coût, etc. Il faut qu'on fasse ça en lien étroit avec des industriels, parce que c'est eux qui vont faire le développement de tous les systèmes, quels qu'ils soient, des petits et des beaucoup plus gros. Et il faut qu'on communique ce que l'on est en train de faire avec le public, parce que de toute façon, il faudra que les dispositifs, quels qu'ils soient, qu'on soit pile à combustible, qu'on soit véhicule électrique, il faudra qu'ils soient acceptés par le public. Donc il faudra qu'on soit capable de répondre simplement à des problématiques qui sont d'abord des problématiques économiques, à mon sens, et des problèmes de sécurité, c'est-à-dire que les personnes se sentent complètement en confiance pour aller acheter un véhicule électrique, quelle qu'en soit l'origine, à un coût qui va être compétitif avec ce qui existe actuellement ou ce qui existera dans 10 ans, quand le pétrole sera plus cher et un jour viendra, probablement, on ne sait pas quand, mais où le pétrole il sera plus disponible à la pompe, donc il faudra bien l'avoir remplacé.
La probabilité est forte.
Je pense qu'on va vers une situation à peu près inéluctable où le prix du pétrole et de l'essence pour faire fonctionner le véhicule personnel sera devenu prohibitif. Donc il faudra trouver d'autres solutions. Alors on y travaille, mais avec des prix qui vont diminuer, des sécurités qui vont augmenter, des performances qui vont s'accroître du côté des systèmes de stockage électrique, et un système de moteur thermique et avec le carburant qu'on connaît, qui lui va suivre le chemin inverse, au moins au niveau des prix, on arrivera à un moment où les courbes vont se croiser et où l'électrique va devenir économiquement et j'espère sociétalement le plus performant.
Dominique Guillaumard, quelles sont les nouvelles pistes de recherche dans le domaine du stockage de l'énergie ?
Alors actuellement, effectivement, la recherche a déjà commencé sur les technologies qui pourront émerger dans une dizaine d'années, je dirais entre 2020 et 2025. Alors je vais vous donner quelques mots-clés. On entendra parler bientôt, on a déjà commencé la recherche là-dessus, de lithium-air, lithium-soufre, sodium-ion, pile à circulation, Guy Ouvrard en a déjà parlé. Alors pour terminer, je voudrais dire un petit mot. À mon avis, pour être compétent et performant et incontournable au niveau de la recherche sur le stockage de l'énergie, il faut être capable de rassembler une multicompétence, c'est-à-dire des compétences multiples dans une équipe de recherche et d'avoir une taille au-delà d'une certaine taille critique. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire dans notre équipe à l'IMN, puisqu'on a recruté des chercheurs spécialistes de différents domaines complémentaires. Et c'est vraiment notre force. Et actuellement, on est au-dessus de la taille critique, puisque on est la plus grosse équipe de l'IMN, avec 50 scientifiques, 20 permanents et 30 thésards et post-docs. Et on est également l'une des plus grosses équipes en Europe dans le domaine du stockage électrochimique de l'énergie.
Valentin Evon, Corentin Bocquel, demain sur les routes, les petits frères de Polyjoule, c'est l'avenir pour vous?
On l'espère.
Même chose.
Voilà.
Bien, je vous remercie. Je fais juste un tour de table pour vous représenter. Donc, Corentin Bocquel et Valentin Evon, vous êtes président, vice-président et président de l'association Polyjoule. Vous souhaite bonne continuation. La prochaine course, ce sera où?
Ça sera chez l'éco-marathon, probablement, à Rotterdam.
D'accord. Et le Duc Éco, encore dans le Gers?
On ne connaît pas encore les dates, ni l'emplacement.
D'accord. Et bien, bonne course. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous pilote le véhicule, au fait?
Non.
D'accord.
Il faut faire moins de 50 kilos.
C'est pour un jockey, alors. Guy Ouvrard, vous êtes professeur à l'Université de Nantes, directeur de l'Institut des matériaux Jean Rouxel. Merci d'avoir participé à cette émission. Et Dominique Guillaumard, directeur de recherche CNRS, ici à l'IMN. Merci à vous aussi.
Merci pour votre accueil.
Je donne juste l'adresse de Polyjoule, l'adresse internet, www.polyjoule.org. Donc merci à tous. Cette émission touche à sa fin, effectivement. Piles et batteries, nous espérons avoir donné un sens à tous ces objets qu'on retrouve d'ordinaire plutôt insignifiants. Une émission animée par Guillaume Mézières et Thomas Prévost avec Gabriel Asfernandez à la rédaction en chef.
Une bonne journée.
Rejoignez l'équipe du Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse.